La Terre, elle brille, en fait. Elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Et puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que des petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars, it would be the greatest adventure ever.
Voilà le générique fort sympathique. Bonjour Michel, bienvenue.
Bonjour Joël.
Voilà, on pouvait pas rater le générique. Alors voilà, comme on a un timing serré avec l'invité qui suit, Michel, on pourra redire quelques mots bien sûr à la fin de votre chronique sur Constellations et Galaxies. Voilà le site qui archive toutes les émissions. Quand je dis le site qui archive, c'est tout votre travail également, Michel. Alors je vous propose de commencer tout de suite votre chronique Astro numéro 72. Et vous allez commencer par l'actualité. Et toujours donc des soucis pour le lanceur futuriste Starship d'Elon Musk, Michel.
Voilà. Juste un petit mot, parce qu'on parle de chronique astro, ce qui est astronomie et astronautique. Et il se trouve que l'actualité en ce moment fait qu'il y a beaucoup d'astronautique, mais que nos auditeurs ne s'inquiètent pas, je m'intéresserai toujours à l'astronomie dans des futures chroniques. Donc lors des dernières, j'avais parlé des accidents récents des prototypes Starship, le futur lanceur lourd de la société privée SpaceX d'Elon Musk, 4 fois plus puissant que son Falcon 9 utilisé actuellement pour propulser la capsule Crew Dragon et son équipage vers l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Cette nouvelle fusée vise notamment à réaliser de futures missions habitées lunaires. Elle a la particularité de pouvoir se reposer en douceur, intégralement et non partiellement, comme le seul premier étage des Falcon 9, ce qui doit encore abaisser le coût des lancements, même si elle est plus grosse et plus puissante, puisqu'elle serait entièrement réutilisable. Sans vouloir jouer les papis nostalgiques, je dois dire que cela me rappelle furieusement les BD de science-fiction, comme Guy Leclerc ou Flash Gordon en version originale, que je lisais dans mon enfance. D'autant que pour ajouter encore à cette vision futuriste, SpaceX a doté son vaisseau de lignes plutôt originales, avec des ailerons latéraux pour contrôler son retour dans l'atmosphère, un look encore renforcé par sa carrosserie, si je peux dire, étincelante car totalement en acier inoxydable. On peut voir une belle photo de deux de ces fusées sur le pas de tir au Texas pendant le lever de la pleine lune de janvier dernier sur le site de l'APOD, Astronomy Picture of the Day, hein, c'est apod.nasa.gov, à la date du 22 février. Malheureusement, du côté des vols, la réussite n'est pour le moment pas au rendez-vous. Lors de son test du 9 décembre, le prototype numéro 8 s'est écrasé au lieu d'atterrir en douceur après son lancement et une montée jusqu'à 12 km d'altitude environ. Comme je l'avais dit début janvier, le numéro 9 avait connu un accident le 11 décembre pendant son assemblage en basculant jusqu'à percuter le mur du bâtiment, ce qui avait endommagé un de ses ailerons. Réparé, il avait été transporté sur le pas de tir, où on le voit sur la photo publiée par l'APOD, pour subir en janvier quelques essais d'allumage statique de ses moteurs, c'est-à-dire sans décoller, puis finalement être lancé le 2 février. Comme prévu, il est monté jusqu'à 10 km d'altitude, puis a basculé pour un vol horizontal afin d'atteindre son site d'atterrissage, mais la manœuvre finale de retournement pour la descente freinée par ses moteurs a échoué, provoquant son crash sur la zone d'atterrissage dans une violente explosion. Selon les premières analyses, l'accident serait dû au retard d'allumage d'un de ses deux moteurs Raptor utilisés pour ses manœuvres de retour au sol. La fusée en comporte 6 au total, 3 optimisés pour les phases de vol dans l'atmosphère et 3 pour être utilisés dans le vide spatial. Cette manœuvre de retournement finale devrait être modifiée pour le vol du prototype numéro 10, dont on ne connaît pas encore la date, mais qui est probablement proche puisqu'il est en place sur son pas de tir depuis la fin janvier. C'est le second visible sur la photo de la pod. Ces derniers jours, j'ai entendu une interview de Philippe Croizon, l'athlète français handicapé, bien connu pour ses exploits, comme en 2010 la traversée de la Manche alors qu'il est amputé des 4 membres, ou sa participation comme pilote au Dakar 2017 dans un véhicule adapté. Sur un coup de culot, en novembre, il avait contacté directement Elon Musk via Twitter en lui proposant de devenir le premier handicapé dans l'espace. Voici son message. « Bonjour, je suis un célèbre aventurier français sans bras ni jambes. Envoyez-moi dans l'espace pour montrer une fois de plus que tout est possible. » Le milliardaire médiatique l'a pris au mot et ils envisagent sérieusement la possibilité d'un vol à bord d'un Starship. Dans le reportage que j'ai entendu, il prévoit, avant de concrétiser ce projet, d'être sur place pour le premier décollage habité d'un vol touristique et aussi pour son atterrissage, le tout en octobre prochain. Je ne voudrais pas être trop pessimiste, mais je doute un peu de ce planning qui puisse être tenu alors que, 8 mois avant, tous les tests de lancement de cette fusée sont des échecs, se terminant par des catastrophes. C'est une chose que de perdre des millions en matériel, mais c'est bien différent de prendre le risque d'un vol avec un équipage si les chances de succès ne sont pas suffisantes. Encore un petit mot concernant les lanceurs lourds, car la dernière fois j'avais parlé de celui de la NASA, le SLS, Space Launch System, qui doit être utilisé pour le programme lunaire Artemis et dont le test au sol des 4 moteurs de son premier étage avait échoué le 20 décembre dernier, interrompu après 1 minute et demie au lieu des 8 minutes prévues, ce qui correspond à la première phase d'un décollage. Après analyse de la défaillance, la NASA a décidé de procéder à un autre test identique avant d'envisager un premier lancement à vide, puis un second avec équipage, ce qui retardera, comme je le craignais, la progression du programme lunaire, avec peut-être un report des premiers vols Artemis à 2022 au lieu de cette fin d'année. D'autant que ce deuxième test au sol était prévu la semaine dernière et, sauf erreur de ma part, n'a pas encore eu lieu puisque je n'ai trouvé aucune annonce de ses résultats.
Pourtant, Michel, les hommes étaient sur la Lune il y a déjà 50 ans.
Oui, et d'ailleurs, nous n'en avons pas fini avec ce cinquantenaire des missions Apollo, dont les célébrations ont commencé en décembre 2018 avec celui d'Apollo 8, qui avait effectué la première mise en orbite lunaire à Noël 1968, et dont le point culminant aurait été celui du premier alunissage d'Apollo 11 le 21 juillet 1969. J'avais évoqué Apollo 12 en novembre 2019, puis la dramatique mission Apollo 13 en juin 2020. À l'époque, il avait fallu un certain temps pour analyser l'explosion très grave qui s'était produite avant d'autoriser la reprise des vols de ces capsules. Et c'est donc seulement le 31 janvier 1971, plus de 6 mois après, qu'Apollo 14 s'est lancé à son tour à l'assaut de la Lune, mission dont on fêtait le 50e anniversaire au début de ce mois de février. L'équipage était composé de Alan Shepard, un vétéran de l'espace, puisque c'est le premier Américain à y être allé brièvement dans une minuscule capsule Mercury en mai 1961, moins de 1 mois après la mise en orbite de Yuri Gagarin par les Soviétiques. Et Edgar Mitchell, dont ce sera la seule mission spatiale. Pendant que ces deux astronautes fouleront le sol lunaire, c'est Stuart Rouza qui les attendra en orbite dans la capsule, lui aussi, pour son unique expérience spatiale. Tous les trois sont morts depuis, Rouza en 1994 d'un cancer à seulement 61 ans, Shepard en 98 d'une leucémie à 75 ans et Mitchell en 2016 à l'âge de 85 ans. Cette troisième exploration lunaire, puisque l'équipage d'Apollo 13 n'a jamais aluni, suscite quelques controverses car certains estiment qu'elle n'a pas été totalement réussie. Il faut dire qu'on en attendait beaucoup car le site visité, près des collines de Fra Mauro, au sud-est de l'océan des Tempêtes, qui était déjà l'objectif d'Apollo 13, était très prometteur sur le plan géologique, car permettant d'accéder aux roches primordiales de la Lune, plus anciennes que les échantillons collectés par Apollo 11 et 12 en 1969. On a reproché aux deux explorateurs de ne pas s'être assez intéressés à la formation géologique qui a précédé leur mission et d'avoir perdu du temps à diverses péripéties sur la Lune. Il faut dire que Mitchell s'est distingué en envoyant au loin le mât utilisé pour supporter un collecteur de vent solaire, ce qui, selon Shepard, constituait le plus grand lancer de javelot du siècle. Lui-même ayant propulsé une balle avec un fer de golf bricolé au bout de l'outil de collecte d'échantillons. On trouve facilement cette séquence mémorable sur YouTube, par exemple. Alors qu'ils sont envoyés bien plus loin du module lunaire que les missions précédentes, vers le cratère baptisé Cône, à environ 1,4 km, ils perdent du temps car il leur est très difficile de se repérer en raison des ondulations du terrain qui le rend assez différent de ce que montraient les photos prises en orbite et aussi à cause du soleil qu'ils ont de face. De même, ils ont des difficultés à reconnaître le changement de couleur du sol qui leur permettrait d'identifier la zone d'éjecta du cratère pour y prélever des échantillons anciens. Et quand on les envoie inspecter un gros rocher 60 mètres plus loin, il ne leur reste plus que 5 minutes d'autonomie avant de devoir revenir au LEM sous peine de manquer d'oxygène. Au final, on peut estimer qu'avec toutes ces complications, un autre équipage n'aurait sans doute pas fait beaucoup mieux que celui-là, malgré ses quelques fantaisies. Avec plus de temps passé sur la Lune que l'émission précédente, 1 jour et 9 heures, contre un peu moins de 1 jour pour Apollo 11 et 1 jour 7 heures pour Apollo 12, et des sorties plus longues, au total plus de 9 heures, contre 2h30 et 7h30, Apollo 14 aura rapporté encore plus d'échantillons sur la Terre, 43 kilos, contre 21 et 34 pour les deux explorations précédentes. Et parmi les roches récoltées figure un bloc de 9 kilos, baptisé Grosse Bertha, ramassé à la main par Shepard à seulement 17 mètres du cratère Cône, qu'ils n'ont jamais pu voir distinctement. Et c'est précisément dans cette roche, très ancienne, qu'on a découvert en février 2019, et j'en avais parlé à l'époque, un minuscule fragment de 2 grammes qui serait, d'après les analyses, la plus vieille roche terrestre connue, avec plus de 4 milliards d'années. Éjecté vers notre satellite, probablement par un gros impact d'astéroïdes sur notre planète au début de sa formation.
Alors, puisque vous parlez d'émissions habitées, est-ce qu'on recrute de nouveaux astronautes, Michel ?
Alors oui, bien que théoriquement, on devrait plutôt dire spationautes, qui est le terme utilisé pour les Européens. Alors qu'astronautes désignent en principe des Américains et cosmonautes les Russes ou Soviétiques, quant aux Chinois, ils préfèrent le terme taïkonautes, formé à partir de la racine taïkong, je ne garantis pas la prononciation, qui signifie « espace » dans leur langue. Et pour nos auditeurs qui seraient curieux de ces particularités linguistiques, je signale qu'il existe aussi « vyomanote », venant du sanskrit « vyoman », là aussi la prononciation, je ne suis pas sûr, c'est-à-dire « ciel » pour les Indiens. Mais cela reste virtuel, car si le programme spatial indien envisage bien la possibilité de vols habités dans le futur, cela reste pour le moment à l'état de projet. L'ISRO, Indian Space Research Organization, l'agence spatiale de l'Inde, se consacrant surtout à l'envoi de satellites terrestres, civils ou militaires, et des sondes pour l'exploration du système solaire, comme les missions lunaires Chandrayaan 1 et 2 lancées en 2008 et 2019, et l'orbiteur martien... Magalayan, ou Mars Orbiter, qui survole la planète rouge depuis 2014 pour étudier son atmosphère. Mais revenons à cette campagne de recrutement de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, pour une nouvelle promotion de 4 ou peut-être 6 spationautes, devant compléter les effectifs actuels qui comptent encore 7 actifs. La sélection précédente remontant à 2008, avec notamment le Français Thomas Pesquet, qui a déjà effectué un vol à bord de l'ISS, avec un équipage russe et devrait y retourner très prochainement, en principe le 20 avril, avec une mission américaine à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX. En effet, l'ESA ne disposant pas de son propre vaisseau habitable, c'est par le biais de coopération avec la NASA et l'agence russe Roscosmos que les spationautes peuvent partir dans l'espace, actuellement vers l'ISS, mais plus tard vers la Lune ou peut-être Mars un jour lointain. Ce n'est pas un problème de lanceur, car la version la plus puissante de notre Ariane 5 peut envoyer dans les 21 tonnes en orbite basse, hein, c'est celle de l'ISS, ce qui est tout à fait comparable au Falcon 9 de SpaceX et même supérieur à la capacité du Soyouz russe. Mais les Européens ont renoncé à développer un programme de vols habités, autonome, dès la création de l'ESA en 1975, c'est-à-dire juste après la course vers la Lune et le début des coopérations spatiales internationales, notamment entre Russes et Américains, avec la première mission conjointe Apollo-Soyouz en juillet 1975, coopération qui se concrétiseront avec l'ISS à la fin des années 1990, après que des spationautes européens aient déjà pu participer à des séjours à bord de la station spatiale soviétique Mir.
Alors comment peut-on se porter candidat si on rêve de partir un jour dans l'espace ?
Alors un site dédié a été lancé par l'ESA le 16 février, c'est à partir du 31 mars que les candidats pourront y déposer leur dossier. Le temps des pionniers de l'espace, souvent des pilotes d'essai ou des militaires, étant révolu depuis longtemps, ce sont plutôt des profils scientifiques qui sont maintenant recherchés, avec au minimum un master en sciences naturelles, médecine, ingénierie, mathématiques ou informatique, même si des candidatures de pilotes ou ingénieurs d'essai sont également acceptées. Bien entendu, la possession d'un second master ou mieux d'un doctorat serait un plus. Une expérience professionnelle d'au moins 3 ans est requise. Sur le plan physique, il faut bien entendu être dans une parfaite condition, en bonne santé, et ne pas être âgé de plus de 50 ans, contre 37 lors des sélections précédentes, ce qui malheureusement disqualifie certains présents dans le studio de radio ce midi. Par exemple, Thomas Pesquet, âgé de 43 ans depuis le 27 février, on peut lui souhaiter un bon anniversaire avec quelques jours de retard, pratique de nombreux sports comme le surf, le ski ou le parachutisme, et surtout le judo. Il faut aussi parler très couramment l'anglais et au moins une autre langue étrangère, mais pas nécessairement le russe. De toute façon, il sera appris par les futurs spationautes lors d'un stage intensif, car il est nécessaire de posséder les deux langues utilisées par nos partenaires lors des missions, l'anglais et le russe. Pour sa part, Thomas Pesquet parle 4 langues, en plus du français et de l'anglais. Espagnol, allemand, chinois et russe. Lors de la sélection qui doit se dérouler jusqu'en octobre 2022, outre des tests médicaux pointus, d'autres critères seront évalués, notamment sur le plan psychologique et la capacité de s'intégrer à une équipe. Il est évident que la sécurité des vols spatiaux repose notamment sur la bonne entente des équipages, surtout lors des missions de longue durée, comme celle à bord de l'ISS, en général de 6 mois, sans extrapoler jusqu'aux 2 ans et demi d'une éventuelle exploration martienne.
Alors justement, est-ce qu'on sait à quelle mission participera cette nouvelle promotion de spationautes européens ?
À court terme, ce seront des séjours à bord de l'ISS, en général de 6 mois, et plus tard dans la prochaine station internationale, ou Gateway, qu'il est prévu d'installer en orbite autour de la Lune. Mais des discussions entre l'ESA et la NASA visent aussi à les intégrer au nouveau programme lunaire Artemis, puis la perspective d'une exploration martienne qui reste pour le moment très hypothétique. J'ai déjà exprimé ici mes doutes sur la concrétisation au cours des années 2020 et même 2030, vu la lenteur à relancer le projet lunaire Artemis, la difficulté et la complexité d'une mission martienne, obligatoirement internationale vu ses coûts exorbitants, étant d'une toute autre ampleur. Et ce ne sont pas les déclarations très médiatiques d'Elon Musk qui pourraient me faire croire qu'une société privée aurait la capacité à réussir ce challenge dans la prochaine décennie. Selon Francis Rocard, responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES, on ne peut guère l'envisager avant les années 2040 à 2050. Donc le calcul est simple, si on suppose que les nouveaux spationautes recrutés en 2022 auront au minimum dans les 25 ans pour avoir réussi un master ou un doctorat, il risque d'être proche de la retraite lorsqu'un projet martien pourrait se concrétiser. Il est donc probable que cet objectif revienne plutôt à la promotion suivante.
Et si on visait encore plus loin, vers d'autres planètes hors du système solaire ?
Alors même si je ne suis pas hostile, on entre là plutôt dans le domaine de la science-fiction, mais c'est vrai que le sujet des vols interstellaires a été relancé fin janvier par la publication du livre d'Avi Loeb à propos du mystérieux astéroïde Oumuamua, qui a traversé en 2017 notre système solaire en provenance de l'extérieur, donc forcément d'une autre étoile, un autre système planétaire, probablement à au moins 25 années-lumière de nous, sans pouvoir être très précis sur sa trajectoire à une telle échelle. Rappelons à nos auditeurs qu'une telle distance est considérable, comme le sont les espaces séparant les étoiles, soit dans les 240 000 milliards de kilomètres, ce qui est tout à fait impossible à se représenter. Ce qui est peut-être plus parlant, c'est que pour les parcourir, il faudrait dans les 450 000 ans à l'engin le plus rapide que les hommes ont envoyé dans l'espace, la sonde Voyager 1, qui s'éloigne du Soleil à 16,6 km/s, soit dans les 60 000 km/h. Ce qui permettrait de franchir la distance Terre-Lune en 6h30, alors que les capsules Apollo le faisaient en environ 3 jours. La dernière fois, j'avais évoqué très rapidement le livre intitulé « Le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre », dont j'avais entendu parler le matin même dans le cadre de sa campagne de promotion en France à l'occasion de sa sortie mondiale. Depuis, j'ai eu l'occasion de le lire, étant sans doute un des premiers acheteurs 2 jours plus tard, alors que le libraire n'avait pas encore eu le temps de le mettre en rayon. Et j'ai aussi entendu une émission de radio à son propos et suivi un débat en ligne qu'on peut toujours consulter sur le site de la revue Ciel et Espace. C'est www.cielespace.fr. Au final, mon avis est plutôt mitigé sur le livre comme sur les réactions qu'il suscite. Pour résumer la théorie développée par Avi Loeb, il explique que les particularités très surprenantes de cet objet spatial, notamment sa forme et sa trajectoire, peuvent suggérer qu'il ne s'agit ni d'un astéroïde ni d'une comète, mais plutôt d'un objet artificiel, donc un vaisseau spatial, ou plutôt un débris à la dérive qui aurait, selon l'auteur, croisé par hasard notre Soleil. S'il expose des arguments intéressants basés sur les mesures faites de cet objet en 2017, malheureusement très maigre, je trouve qu'il extrapole un peu trop en direction de l'hypothèse d'une voile spatiale, sujet qu'il connaît bien pour l'avoir étudié dans le cadre du projet Starshot, que j'ai déjà évoqué ici. Quitte à explorer la possibilité d'un engin spatial, je trouve personnellement que sa trajectoire très proche du Soleil, plus près de notre étoile que la planète Mercure, une précision incroyable vu la distance considérable d'où il provient, ce qu'il a dévié et accéléré, exactement comme nous le faisons avec nos sondes spatiales par la technique dite de fronte gravitationnelle, plaiderait plutôt pour un vaisseau actif que pour une épave à la dérive. Et une fois de plus, je rappellerai l'étrange coïncidence avec ce qui est décrit dans le roman « Rendez-vous avec Rama » publié par Arthur C. Clarke en 1973 et dont je recommande chaudement la lecture à nos auditeurs. Par ailleurs, comme il peut dire finalement assez peu de choses au sujet de Oumuamua, vu les rares informations fiables récoltées en 2017, son livre est largement rempli de considérations philosophiques, Loeb a suivi des études de philosophie avant de devenir astronome d'ailleurs, pour ne pas dire militante, pour expliquer que nous dépensons bien trop peu de moyens à la recherche de civilisations extraterrestres et de leurs éventuels vestiges détectables par rapport à d'autres domaines scientifiques. Ce n'est pas fondamentalement faux, mais je trouve que ça pèse beaucoup dans la lecture de cet ouvrage, si je peux dire.
Alors, est-ce que vous avez des réactions des astronomes à cette publication, justement ?
Alors, si on a certainement perçu que mon goût pour la science-fiction me fait considérer sous un jour favorable l'hypothèse, même très improbable, d'un vaisseau spatial extraterrestre, je suis prêt à entendre des arguments scientifiques qui viennent démolir cette hypothèse un peu scabreuse. Malheureusement, de ce côté-là aussi, je suis un peu déçu. Je regrette que dans l'émission que j'ai entendue, comme dans la vidéoconférence organisée par Ciel et Espace, les scientifiques débattent surtout de sujets périphériques plutôt que des véritables questions posées par Oumuamua. Par exemple, sur le fait qu'Avi Loeb, bien qu'astronome mondialement réputé, directeur d'un département d'astronomie à la prestigieuse université d'Harvard, parle d'un sujet qu'il connaît mal, puisqu'il n'est pas planétologue ou spécialiste des petits corps du système solaire, ses compétences étant dans le domaine de l'astrophysique et de la cosmologie, donc par exemple du Big Bang. On lui reproche aussi la trop bonne stratégie de communication qui crée un intérêt intense du public et des médias dans le monde entier autour de son bouquin, alors que la publication beaucoup plus confidentielle d'un article dans la revue scientifique Astrophysical Journal Letters en novembre 2018, développant pourtant les mêmes théories et arguments, semble déranger beaucoup moins ses contradicteurs car elle n'avait pas eu le même retentissement. Pour illustrer ces discussions autour du bouquin, plutôt que de la thèse qu'il propose, je prendrai l'exemple de la conférence en ligne de Ciel et Espace dans laquelle interviennent deux scientifiques. Hervé Cotin, astrochimiste, professeur à l'Université de Paris-Créteil, président de la SFE, c'est-à-dire la Société française d'exobiologie, donc de la recherche d'une vie extraterrestre, et Sean Raymond, planétologue au LAB, laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, tout à côté, spécialiste de la formation et de l'évolution planétaire, donc des petits corps comme les astéroïdes et les comètes, et membre du groupe d'études d'Oumuamua. Dès le début de l'échange, tous les deux admettent ne pas avoir lu le livre d'Avi Loeb. Et personnellement, je suis toujours gêné d'entendre dans les médias des spécialistes, quelles que soient leurs compétences, s'exprimer sur un sujet sans l'avoir étudié. Et j'ai noté que lorsque le débat aborde les points durs du sujet, ils admettent que les explications naturelles à la structure et au comportement d'Oumuamua nécessite le recours à des concepts assez limites qui ne cadrent pas avec les caractéristiques habituelles de ces objets de ce genre, hein, ce sont les comètes et les astéroïdes, tels que nous les connaissons, ce qui n'est pas très éloigné de ce que dit Loeb dans son livre pour avancer son hypothèse artificielle extraterrestre, dont on peut comprendre qu'elle soit considérée comme extravagante par beaucoup de chercheurs. Mais on doit aussi admettre que l'hypothèse d'une vie extraterrestre n'est pas complètement négligée non plus par les chercheurs, notamment au travers de l'étude des exoplanètes ou la recherche de traces de vie à la surface de Mars. C'est surtout l'existence de civilisations extraterrestres évoluées et la quête de leurs éventuelles manifestations, actuelles ou anciennes, qui ne mobilisent pas beaucoup de moyens financiers et humains, comme par exemple les faibles ressources allouées au projet SETI, ainsi que le déplore Loeb, militant pour des efforts bien plus conséquents dans ce domaine qu'il considère comme potentiellement très prometteurs. Au final, pour ma part, il me semble que le débat reste ouvert et que les très pauvres mesures effectuées pendant le bref passage d'Oumuamua dans le système solaire ne permettent guère de se faire une opinion éclairée. Sans doute que nous en saurons plus avec l'observation attendue d'autres corps interstellaires et peut-être grâce à la mission européenne Comet Interceptor, dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, qui prévoit l'envoi d'une sonde en 2028 pour rechercher ce genre d'objet et, si les conditions sont favorables, se lancer à sa rencontre pour l'étudier. Pour faire un petit clin d'œil au roman de C. Clarke, on pourrait s'attendre à ce qu'un engin spatial ne soit pas unique, mais qu'en raison des dangers de collision lors de la traversée d'un système planétaire comme le nôtre, ceux qui l'auraient envoyé vers nous auront sans doute réparti les risques sur plusieurs vaisseaux. Il ne reste donc qu'à attendre les visiteurs suivants.
Alors, on est toujours en direct hein, sur Eudo Radio. C'est notre journal en ce mercredi 3 mars. C'est la chronique astro de Michel Favret. Numéro 72, voilà, c'était précis. Et Michel va vous parler maintenant du thème du mois, du sujet, l'arrivée de Persévérance sur Mars.
Oui, parce que bien entendu, l'événement astronautique de ce mois de février aura été l'atterrissage en douceur du rover Persévérance de la NASA sur le sol martien dans la soirée du 18 vers 22h heure française. On pouvait d'ailleurs le suivre en direct sur différents sites en ligne, notamment celui du CNES, le Centre National des Études Spatiales, ou celui de Ciel et Espace. C'est une grande réussite si on considère que depuis le début de l'exploration martienne, en 1971 avec la sonde soviétique Mars 3, puis en 1976 avec les Vikings américains, près de la moitié des atterrisseurs se sont écrasés à la surface de la planète rouge au lieu de s'y poser. Avant de revenir sur cet exploit et les détails de cette mission Mars 2020, je rappelle que pour cette campagne 2020 d'envoi de sondes vers Mars, comme tous les deux ans environ, lorsque la distance entre la Terre et Mars est la plus faible, dans les 60 millions de kilomètres, donc le trajet le plus rapide, deux autres missions sont arrivées quelques jours avant celle de la NASA. À la Mal, qui veut dire espoir en français, bien que bizarrement on la nomme souvent Hope dans les médias, des Émirats Arabes Unis, avec l'aide des USA pour sa construction et du Japon pour son lancement, qui s'est placé en orbite autour de la planète le 9 février pour étudier son atmosphère, et notamment ses variations selon les alternances jour-nuit et les saisons, pour essayer de comprendre comment la météorologie actuelle peut nous renseigner sur les climats qui ont pu régner dans le passé. Ensuite, c'est la chinoise Tianwen-1, ça doit vouloir dire « question au ciel » ou « demande au ciel » en français, qui s'est mise en orbite le lendemain 10 février. On attend maintenant qu'elle largue son atterrisseur de 1 tonne, dérivé des sondes lunaires Chang'e, peut-être à la fin du printemps, qui doit lui-même libérer un petit rover de 240 kg, dérivé lui aussi des U2 déposés sur la Lune. Pour en revenir à Perseverance, son atterrissage réussi est le résultat d'une procédure assez complexe, même si elle ne dure que quelques minutes. Il est d'abord freiné par la friction dans l'atmosphère martienne, protégé par un bouclier thermique dont la température monte jusqu'à 1300 degrés. Passant d'une vitesse d'environ 20 000 km/h lors de son entrée dans l'atmosphère à environ 2000 km/h. Pendant cette phase, la forme de l'engin procure une certaine portance permettant de piloter sa trajectoire vers son site d'atterrissage. Après le largage du bouclier thermique pour s'alléger, il ouvre son parachute supersonique de 21 mètres de diamètre vers 12 km d'altitude pour faire tomber sa vitesse jusqu'à environ 360 km/h en 1 minute et demie. Après la séparation du parachute, la descente est freinée par des rétrofusées jusqu'à environ 20 mètres du sol. La toute dernière phase de l'atterrissage consiste à larguer le rover au bout d'un ensemble de câbles qui lui permettent de s'écarter de la grue volante, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui le soutient jusqu'à sentir, si je peux dire, avec des capteurs qu'il touche le sol, puis s'y trouve posé et stable. À ce moment, les câbles sont détachés et la grue volante part s'écraser plus loin pour ne pas risquer d'endommager le rover. Ces opérations complexes et risquées ont pour la première fois été filmées par des caméras dirigées vers le haut, montrant l'ouverture du parachute, et vers le bas, permettant de voir le sol martien, puis le rover suspendu sous sa grue volante. Mais ces images sont parvenues sur Terre quelques heures plus tard, lorsqu'elles ont pu être transmises en passant par le relais d'un satellite, comme toutes les communications massives de Perseverance. Et de toute façon, il ne sera jamais possible de vivre un tel événement en direct, car les ondes mettent dans les 10 minutes pour parcourir la distance Terre-Mars lorsque les missions atteignent la planète rouge. En fait, Perseverance était déjà posée, ou perdue si ça s'était mal passé, lorsque les informations sur sa rentrée atmosphérique commençaient à peine à nous arriver. Et donc toutes ces opérations d'atterrissage se sont déroulées en complète autonomie, puisque ce délai de transmission interdit tout contrôle en direct depuis la Terre. On trouve ces vidéos facilement sur des sites web, notamment celui de la NASA, ainsi que d'autres images prises par l'orbiteur MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, montrant la sonde suspendue sous son parachute pendant sa descente, ou plus récemment des photos à haute résolution, on peut distinguer sur le sol martien tous les éléments de la mission. Le rover posé, le site de crash de la grue volante, le parachute et le bouclier thermique. Toutes ces images sont visibles sur la pod.
Alors maintenant qu'il est posé, est-ce que Perseverance a commencé son exploration de Mars ?
Alors pas vraiment, car pour toutes ces missions spatiales très coûteuses, hein, c'est plus de 2 milliards de dollars pour Perseverance, et expérimentales, c'est la prudence qui est la règle. Les responsables doivent donc procéder à de nombreuses vérifications et tests pour contrôler le bon fonctionnement des équipements avant de commencer progressivement la mission scientifique. Par exemple, à ce jour, le mât permettant d'élever sa principale caméra scientifique, la Supercam, à plus de 2 mètres de haut, n'a pas encore été déployé, ni déplié le bras de 2,70 m, supportant les outils de forage et d'autres instruments. Les photos envoyées jusqu'à maintenant, dont un panorama complet à 360 degrés, proviennent de caméras secondaires, par exemple destinées à éviter de rouler sur des obstacles potentiellement dangereux. Et bien entendu, le rover ne s'est pas encore déplacé. L'engin est équipé au total de 9 caméras d'ingénierie et 7 caméras scientifiques, auxquelles on peut ajouter les 7 autres utilisées pendant la phase d'atterrissage, soit au total 23 caméras. Toutes ces opérations de déploiement sont prévues pour durer environ un mois, suivies d'un autre mois dont le contenu dépendra des résultats de la première phase, avec en particulier la recherche d'un site propice au test du drone Ingenuity, un hélicoptère à double rotor d'environ 2 kg, et la préparation de son premier vol d'exploration des alentours. Nos auditeurs peuvent s'étonner de la durée de ces préparations, mais il faut bien comprendre que Perseverance est une machine très complexe, conçue sur la base de la plateforme de Curiosity, qui explore la surface de Mars depuis 2012, et dont j'avais eu l'occasion de voir une maquette à l'échelle 1 à la Cité de l'Espace à Toulouse. Et c'est très impressionnant. Il faut imaginer le gabarit d'une Jeep ou d'un 4x4 moderne, d'environ 3 mètres de long et presque autant en largeur, dont la caméra au bout du mât est plus haute qu'un homme, et au total pèse environ une tonne.
Alors pouvez-vous nous dire quelques mots sur les instruments qu'il équipe ?
Si on fait la liste des instruments embarqués sur le rover, il y a Mastcam Z, une caméra couleur pouvant prendre des images en 3D ou des vidéos. MEDA, une station météorologique pour mesurer la température, la pression, l'humidité, le vent. Pixel, un spectromètre rayon X pour connaître la composition des roches. RIMFAX, un radar pour analyser la structure géologique du sous-sol. Sherlock, un spectromètre laser pour la détection des minéraux, en espérant y trouver la signature de molécules organiques, voire de micro-organismes. Et MOXIE, une expérience visant à produire de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne, bien entendu pour vérifier cette possibilité en vue d'une future mission humaine. Dans cette énumération, j'ai gardé le meilleur pour la fin, avec l'imageur SuperCam, qui, cocorico, a été conçu en coopération avec le CNES français, comme son prédécesseur ChemCam, qui équipe Curiosity. Cet instrument permet de tirer avec un laser puissant sur des roches afin d'analyser leur composition à distance avec les 3 spectromètres qu'il équipe. Cela permet de savoir si ça vaut la peine de s'en approcher pour en prélever un échantillon. Et on a eu l'idée de l'équiper aussi d'un microphone, au départ pour étudier le son du laser frappant le rocher afin de connaître sa consistance, mais aussi d'entendre des sons émis par le rover, peut-être révélateurs d'un dysfonctionnement, et plus généralement des bruits sur Mars. On a déjà reçu un premier enregistrement du son produit par le vent martien. Pour ce qui concerne les échantillons de roches, le bras de Perseverance est équipé d'une foreuse qui permet d'extraire des carottes d'environ 1 cm de diamètre et 6 cm de long, soit dans les 10-15 g de matériaux martiens. Elles seront placées dans des tubes prévus à cet effet, au nombre de 42, dont on espère réussir au moins la collecte pour une vingtaine. Ces échantillons doivent ensuite être largués sur le sol en petit tas, dans l'attente d'une future mission baptisée SLR, Sample Retrieval Lander, qui devra les récupérer, en principe entre 2028 et 2029, pour les envoyer avec une petite fusée jusqu'à ERO, Earth Return Orbiter, une mission européenne qui les attendra en orbite pour les ramener sur Terre, probablement en 2031. Comme on l'aura compris, avec les instruments décrits et cette future mission de retour d'échantillons sur Terre, cette mission a pour vocation principale la recherche d'indices sur l'existence d'une vie martienne présente ou passée. Le site d'atterrissage a spécialement été choisi pour cet objectif, dans le cratère G0, baptisé ainsi en 2007 en hommage à la ville du même nom en Bosnie-Herzégovine et qui signifie « lac » dans plusieurs langues slaves. Car ce cratère a connu dans le passé un système de plusieurs lacs, comme l'a montré la découverte de dépôts argileux par Mars Reconnaissance Orbiter, et présente les formations typiques de 2 lits de rivière et d'un delta d'écoulement, donc un contexte qui a pu être particulièrement propice à la vie si elle existait un jour sur Mars. Nul doute que nous aurons certainement l'occasion de revenir sur la progression des explorations de Perseverance dans les prochains mois.
Allez, toujours en direct, c'est la chronique Astro numéro 72 de Michel Favré sur Eau de Radio. Et là, Michel, vous allez nous parler du ciel du mois.
Alors, comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique Ciel du mois de la section astronomie de notre site web, www.constellationsetgalaxies.com ou org plutôt. Pour voir les cartes du ciel correspondantes, c'est pas facile de montrer des cartes à l'antenne, et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour pour Mars ce soir ou demain. Les jours rallongent depuis le solstice d'hiver du 21 décembre, avec en ce moment le soleil qui se couche vers 18h50 et la nuit qui arrive une heure plus tard, et un ciel bien noir vers 20h30. Fin mars, le coucher sera vers 20h30 et la nuit vers 21h30, mais ce sera à l'heure d'été, puisque comme chaque année, c'est le dernier week-end de mars que nous changerons en ajoutant une heure à nos horloges, à 2h dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28. Comme nous sommes encore en hiver, pour quelques semaines, officiellement jusqu'à l'équinoxe du 20 mars, c'est le ciel typique de cette saison qui occupe tout le sud en début de nuit, avec sa figure centrale d'Orion, bien reconnaissable plein sud, entouré des autres constellations de l'hiver, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le taureau, le cocher, les gémeaux, les petits et grands chiens. Ces cinq constellations, dont les étoiles les plus brillantes, forment le contour d'un grand G majuscule autour d'Orion, la barre étant formée par ses épaules, Bellatrix et Bételgeuse. À noter que cette figure bien pratique pour se repérer est un peu perturbée cette année par la présence de Mars dans le taureau. À la fin du mois, la configuration aura nettement changé avec Orion déjà bien basculé au sud-ouest en début de nuit et le ciel de l'hiver cédant la place dans la moitié est à celui du printemps avec sa constellation vedette le Lion suivi par la Vierge en train de se lever. Côté planète, Mars est la seule bien visible pendant toute la première moitié de nuit actuellement en se couchant vers 1h30, 2h, mais c'est heure d'été, à la fin du mois. Elle est bien reconnaissable à sa couleur orangée, même si son éclat a beaucoup diminué depuis l'opposition d'octobre. Actuellement, il est comparable à celui des étoiles les plus brillantes, sans plus. Ce soir, elle sera au plus près de l'amas des Pléiades, à environ la largeur d'un doigt bras tendu. Toutes les autres planètes sont trop proches du Soleil pour être bien observables ce mois-ci. On pourra néanmoins revoir Saturne, Jupiter et Mercure et apparaître timidement à l'aube, mais toujours assez basse. Par exemple, seulement 8 degrés de hauteur pour Jupiter le 31, une demi-heure avant le lever du Soleil. Il y a donc peu de conjonctions ce mois-ci. Vendredi prochain, 5 mars, on pourra voir Mercure presque collé à Jupiter dans les lueurs de l'aube, mais très bas, à moins de 5 degrés de hauteur vers le sud-est, une demi-heure avant le lever du Soleil. Le mardi 9, toujours le matin vers 6h, le croissant de lune, Saturne et Jupiter se lèveront successivement en une demi-heure. Et le lendemain mercredi, le très fin croissant sera entre Saturne et Jupiter. Le soir du vendredi 19, le gros croissant de lune sera entre Mars et Aldébaran, l'étoile principale du taureau d'une couleur orangée également, et dont Mars sera le plus proche le dimanche 21, à peu près la largeur de 3 doigts bras tendus. Deux événements dans le calendrier, avec le samedi 20 l'équinoxe de printemps, quand le soleil se lève pile à l'est et se couche pile à l'ouest en restant 12 heures dans le ciel. Puis nous passerons à l'heure d'été dans la nuit du 27 au 28, avant notre prochaine chronique qui devrait en principe être le mercredi 31.
Voilà, rendez-vous bien sûr à la fin du mois pour la prochaine chronique. Alors Michel, en deux mots, avant qu'on trouve la pause musicale, et notre prochain invité. Donc je disais, on peut retrouver toutes vos chroniques sur le site constellationsetgalaxies.org. Donc je ne sais pas si vous voulez redire quelques mots avant qu'on se quitte.
Si c'est une actualité aussi, on peut dire que Constellations et Galaxies, c'est fini, puisqu'on a tenu notre Assemblée Générale le 16 février et que la décision a été prise de dissoudre l'association puisqu'elle n'a plus d'activité. Mais le site reste, hein, puisqu'il est convenu que je conserve le site et que je continue à le faire vivre, entre autres avec les pages Ciel du mois et les chroniques que je mets en ligne au fur et à mesure que je récupère l'enregistrement à la fin du passage au studio.
Voilà, donc il est toujours d'actualité, même si pour l'association. Voilà, en tout cas, merci Michel pour l'enthousiasme habituel avec vos chroniques. Rendez-vous le 31 mars prochain. Voilà, merci beaucoup Michel, à très vite.
À bientôt.